Radio Okapi.
La jeunesse congolaise est aujourd'hui confrontée à de nombreux défis, mais elle entend aussi jouer un rôle de premier plan dans la transformation du pays. Qu'il s'agisse de lutter contre les inégalités sociales ou de saisir les opportunités économiques, les jeunes veulent être des acteurs du changement plutôt que des simples observateurs. Dans ce numéro des 100% jeunes, nous vous amenons d'abord à Beni, dans la province du Nord Kivu, à l'initiative du consortium « Le Congo n'est pas à vendre ». Des jeunes se sont réunis pour réfléchir aux fortes disparités salariales au sein de la fonction publique, considérées comme l'une des causes des inégalités et de l'injustice sociale en République démocratique du Congo. À l'issue de leurs échanges, ils ont formulé plusieurs recommandations en faveur d'une gouvernance plus équitable, d'une meilleure gestion des ressources publiques et d'investissements orientés vers le développement. Dans la seconde partie de ce magazine, nous revenons sur le lancement officiel du programme présidentiel pour l'emploi et l'entrepreneuriat des jeunes, des beaux jeunes congolais. Doté d'un budget de 1,3 milliard de dollars sur 6 ans, cette initiative ambitionne de renforcer la formation professionnelle, de soutenir l'entrepreneuriat et de favoriser l'accès des jeunes à l'emploi. L'objectif affiché est de faire de la jeunesse le principal moteur de la transformation économique de la République démocratique du Congo. La mise en onde est assurée par Pierre Diassinois. Je suis Grâce Amzati, heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de 100% Jeunes, le magazine des jeunes, avec les jeunes et pour les jeunes.
Votre connexion internet est trop lente? Radio Okapi.net vous propose un service gratuit. Les alertes ML. Toute l'actualité de la RDC, le sport, la politique, l'économie, la culture et les offres d'emploi. Faites votre choix, vous recevrez chaque soir les infos dans votre boîte mail. Les alertes ML, c'est gratuit. Radio-Okapi.net, à votre service.
Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans 100% Jeunes. Dans cette première partie, nous nous intéressons à une initiative portée par les jeunes de Beni, au Nord Kivu, réunis autour d'une journée de réflexion consacrée au rapport du consortium « Le Congo n'est pas à vendre ». Ils ont débattu des fortes disparités salariales entre les agents publics, présentées dans ces documents comme l'une des principales causes des inégalités et de l'injustice sociale en République démocratique du Congo. Au terme des échanges, plusieurs recommandations ont été formulées à l'endroit du gouvernement, notamment la réduction du train de vie des institutions et une meilleure orientation des investissements vers le développement. Marc Marofimbo nous en dit plus depuis Beni. Bonjour Marc.
Bonjour Grâce Amzati. Au cœur de cette réflexion, les inégalités de rémunération jugées excessives entre les différents services de l'État. Selon les participants, ces écarts constituent l'une des principales sources d'injustice sociale, mais aussi de frustration au sein de la fonction publique. Pour ces jeunes, cette situation ne favorise ni la motivation au travail, ni la cohésion nationale. Au contraire, elle alimente des pratiques négatives, notamment la corruption et le clientélisme devenus pour certains des moyens de compenser ces déséquilibres. Serge Kambale, coordinateur des Congo Nouveau, organisation membre du consortium.
Ces rapports qui concernaient les disparités des rémunérations des agents public. Et ce qu'il faut retenir, c'est que nous avons pu constater qu'il y a non seulement des inégalités dans le traitement des agents, mais il y a aussi le train de vie des institutions qui consomment énormément de fonds que les investissements. Tout simplement, ça veut dire que l'État, qui emploie beaucoup d'agents, ne les traite pas de la même façon. Et malheureusement, d'après les recherches que nous avons pu faire, il y a des écarts qui sont à terme de 1000%. Nous avons pu, pour prendre juste un exemple, le DG de Fonarev, il a un salaire de 17 ans d'un professeur d'université. Est-ce que vous vous imaginez quelqu'un qui peut avoir 48 000 dollars par mois alors qu'un professeur d'université ne gagne environ que 170, 180 dollars? Donc ça, c'est juste pour donner l'exemple comment est-ce qu'il y a des disparités. Mais également, pour parler du train de vie des institutions, on trouve que le budget d'exécution dépasse les 100%, alors que non seulement les recettes ne sont pas toutes recouvrées, donc on a une capacité de recouvrement de recettes d'environ 50%, et par conséquent, les projets de développement, les projets d'investissement vont en pâtir En 2024, par exemple, on a trouvé que l'exécution de la partie qui concerne le social, les investissements sociaux et le développement, a été exécutée à terme de 3 à 12%, alors que les rémunérations des agents, le fonctionnement est allé au-delà des 100%. Voilà un peu le condensé de ce que nous avons pu faire comme étude. Le premier impact, c'est d'abord au niveau même de la structure étatique, c'est la frustration des agents, la démotivation, la fuite des cerveaux. Les gens ne sont plus attirés, n'est-ce pas, par le travail, la plupart, et d'autres vont carrément fuir. Et ceux qui vont rester, comme ils sont démotivés, il va y avoir inefficacité. C'est pour cela que nous sommes en train de récolter, en fait, ce que nous sémons hein, en termes de gestion de notre budget. Mais également, comme on a parlé, n'est-ce pas, des taux de réalisation des investissements et de projets de développement de 3 à 12%, ça veut dire qu'il n'y aura presque rien qui va être fait au niveau du pays et surtout au niveau des provinces et au niveau des ETD, parce que même le peu de choses qui sont faites au niveau social se fait au niveau central, c'est-à-dire à Kinshasa et peut-être dans certaines provinces qui sont choyées. Alors, les recommandations que nous avons pu articuler, c'était d'abord de diminuer drastiquement le train de vie des institutions. Notre gouvernement, et là, même si je parle du gouvernement, c'est surtout l'autorité budgétaire qui est l'Assemblée nationale, le Sénat, ils doivent se rassurer non seulement de faire en sorte que la priorité puisse être mise au niveau des investissements, au niveau des actions, des activités de développement pour le bien de la population, les actions sociales, et pas prioriser le paiement des agents avant de réaliser, n'est-ce pas, des ouvrages importants pour la population. Nous pensons que cela passe par un contrôle institutionnel tout d'abord, notamment au niveau de la Cour des comptes, au niveau du Parlement, mais cela aussi passe par un contrôle citoyen. En tant que citoyen, nous avons besoin aussi de prendre le taureau par les cornes pour exiger que l'on puisse nous rendre compte que la gestion puisse refléter réellement les priorités qui sont les nôtres et non de gonfler les poches de ceux qui sont en train de gérer pour l'avenir du pays.
Face aux injustices qui minent le pays, la jeunesse de Beni refuse désormais de se taire. Elle s'organise, s'informe et s'engage pour exiger des réformes courageuses, convaincue que le changement ne viendra que de la mobilisation collective et de la responsabilité de chacun. Ce qui implique la prise de conscience collective, indique Azarias Mokondi, jeune de Beni.
Je crois qu'il faut élever des consciences. Il faut que les Congolais puissent prendre conscience de l'avenir de leur pays. Aujourd'hui, comme je l'ai dit, je l'ai évoqué même lors de cette conférence, certainement, j'ai dit, nous vivons dans un état sorcier, parfois également, qui pousse ses habitants ou ses citoyens à observer certaines méthodes sorcelleriques pour aboutir à certains objectifs. Vous avez compris qu'il y a un véritable écart. Ce qui fait qu'il y a même des inégalités sociales aujourd'hui qui font certainement que la guerre ou la corruption des antivaleurs puisse continuer à se poursuivre. La population doit être éveillée. La population doit être mise au courant de tout ce qui se passe. Le camp ici, c'est que ceux qui doivent penser à la vulgarisation de certaines lois, la loi des finances par exemple, l'exercice 2024, en réalité, toutes les autres lois également, devaient être mises à contribution à travers de conférences pour, n'est-ce pas, sa vulgarisation. Même penser, d'ailleurs c'est parmi les recommandations que j'avais données, parce que ces rapports devraient également être traduits dans d'autres langues pour que finalement la population, même celle des basses classes, puisse également accéder à ces documents. Nous avons compris que, au-delà de cette inégalité aujourd'hui, c'est que, en réalité, ceux qui sont au niveau du gouvernement essaient de mobiliser les recettes, pas pour la question des développements ou même la question sociale, mais pour la question des fonctionnements des institutions et des payes des primes ou des salaires, certainement. Ce qui veut dire aujourd'hui que vous pouvez mobiliser pour, par exemple, vous avez, dans vos prévisions budgétaires, vous avez prévu de mobiliser, par exemple, 80%, 16 milliards par exemple, et vous n'avez pas été dans la facilité de pouvoir certainement mobiliser cet argent, mais vos dépenses ne régressent pas. Par contre, elles grimpent. Et nous nous demandons maintenant, si dans les prévisions budgétaires, il a été prévu que vous puissiez mobiliser par exemple 16 milliards de dollars et que vous n'avez pas eu cette capacité de mobiliser cet argent, que vous avez été capable de mobiliser la moitié de cet argent, que même malheureusement, les salaires, le fonctionnement, etc., demeurent là où ils sont. C'est que c'est la pauvre population qui doit payer le prix. Et ça se fait voir. On vous dit, nous avons triplé, quadruplé le budget, mais les sociales demeurent le même. D'ailleurs, les sociales chutent encore davantage. Aujourd'hui, le peuple doit se réveiller. Le peuple doit sortir de ce profond sommeil. Les politiciens viennent lorsque leurs intérêts sont menacés. Aujourd'hui, ils vous parlent de changement à la Constitution, les autres s'y opposent, référendum, etc. Mais quand il s'agit des vraies questions qui y ont un caractère citoyen, ils sont loin de nous, ils sont loin de la population. Donc, aujourd'hui, on vous dit, pour qu'un professeur obtienne un salaire des DG, un professeur d'université, il faut multiplier ses salaires par 17 ans et 4 mois d'ailleurs. Pour qu'un professeur d'université obtienne les salaires des DG d'une entreprise publique de l'État, il faut qu'il travaille pendant 17 ans pour qu'il obtienne ses salaires, un professeur d'université. On vous dit qu'il y a des huissiers à la présidence dans certaines entreprises publiques de l'État qui obtiennent les salaires 4 fois élevés qu'un professeur d'université. Ça se passe dans ce pays. Ce qui fait aujourd'hui que vous voyez ces professeurs se courber face des courbettes devant des petits politiciens. Quelqu'un peut-être difficilement avec un parcours scolaire connu, mais qui vont faire certainement des courbettes. Ce qui fait qu'au lieu que l'élite contribue à la transformation de ce pays, il contribue par contre à sa destruction. Pourquoi ? C'est un système qu'ils ont déjà créé pour finalement conserver cette élite qui devrait être conçue comme de miroir, certainement, pour éclairer la population. Aujourd'hui, c'est cette élite, aujourd'hui, qui contredit ou qui désoriente la population et contredit efficacement à la destruction de la nation. Chacun devrait faire sa part. Ce qui s'appelle le mouvement citoyen, groupe de pression, la presse également. Merci pour la radio Okapi parce que vous faites correctement votre travail. Mais je dois quand même dire à d'autres journalistes, à d'autres médias de presse, aujourd'hui, les journalistes et les médias de presse sont devenus des chiens de garde des politiciens. C'est que on vit au départ des politiciens. Ce qui veut dire que, ce qui fait par exemple que les journalistes ne font plus correctement leur travail. Les activistes, aujourd'hui, ils sortent certainement de l'activisme citoyen. Les gens sont maintenant dans l'activisme politique. Le peuple ne leur intéresse plus. Ce sont leurs intérêts. Si nous voulons être exigeants envers les autres, je l'ai dit aujourd'hui, nous devons être de même exigeants envers nous-mêmes. Le Congo de demain exige une certaine, entre nous d'ailleurs, une certaine discipline, une certaine privation, accepter que non, nous venons servir le peuple, mais nous ne venons pas nous servir du peuple. Parce qu'aujourd'hui, ceux qui oppressaient le peuple d'abord aujourd'hui, hier, c'est d'abord eux et le peuple après. Et nous ne risquons pas également de voir cette génération qui pense tout avoir politiquement par ce mercantilisme certainement utilisé pour accéder d'ailleurs à certains postes. Vous voyez le clientélisme, les népotismes, la corruption, c'est ce qui bat son plein aujourd'hui. Et cela, c'est depuis des années. Donc, si nous voulons changer ces pays, nous devons prendre conscience. L'absence des valeurs au centre, plutôt, des actions des acteurs politiques ou même de certains membres de mouvements citoyens et groupes de pression fait qu'aujourd'hui, au lieu d'avancer, nous régressons. Nous devons être exigeants envers nous-mêmes et faire preuve de certaines valeurs. Parce que si nous mettons les valeurs, nous plaçons les valeurs au centre de nos actions, facilement nous allons changer ces pays. Parce que lorsque ma conscience m'interdit de voler, parce que je serai certainement en train de priver autant de personnes à manger, à la nourriture des bases, je vais m'interdire de le faire. Ça, c'est la conscience. Cette valeur m'appelle à être conscient. Et cette valeur m'appelle également à l'humanisme. Parce que lorsque nous plaçons également l'humanisme au centre de nos actions, certainement, il y a des choses dans lesquelles on ne pouvait plus tomber. Vous voyez le rapport ici. En réalité, ça devrait énerver plus d'un Congolais. Et cette révolte ferait en sorte que nous soyons exigeants envers nos autorités. Mais on devient complaisant. Lorsqu'ils viennent, ils nous manipulent et il n'y a aucune rédivabilité. Ce qui fait aujourd'hui que, bon, voilà, cette année passe, l'autre passe, et les Congos, certains s'enrichissent et d'autres s'appauvrissent. Comment pouvez-vous comprendre que nous avons une population qui vit avec moins d'un dollar, moins de deux dollars par jour? C'est que on est pauvre. Quelqu'un disait, si vous vivez avec moins de 50 dollars par mois, c'est que vraiment vous êtes même en dessous de la pauvreté. Et nous avons une population qui vit même avec moins de 30 dollars. Nous en avons. Et nous vivons dans la guerre. Et il y a des gens qui viennent pour leur gloire, nous manipuler. Nous allons encore chanter à leur gloire, etc. Alors qu'en réalité, nous devrions être, je dirais, exigeants. Ce rapport devrait nous révolter. Pas parce que nous devons nous apprendre aux autorités, non. S'apprendre, par exemple, physiquement, créer la violence tout autour des autorités, non. Mais faire en sorte que nous soyons exigeants. Donc, nous révolter pour leur faire preuve d'une certaine exigence. Je ne vais pas revenir sur un tas de travaux qui se passent à Béni. On est à Béni ici. Je vous dis, il y a des projets aujourd'hui qui ont fait la preuve d'une certaine légèreté. On vous dit, les projets de construction de telles artères devraient en réalité coûter un tas d'argent pour autant de mois, mais vous vous retrouvez à 6 mois sur 25 mètres. Et les gens passent, ils passent régulièrement. Ils vous disent, mais ces travaux viennent facilement de faire 6 mois, mais on est à 25 mètres. Et personne n'en parle. Mais quand on dit changement de la constitution, vous voyez les jeunes gens s'élever. Et moi j'ai dit, c'était la manipulation. C'est cette manipulation qui est aujourd'hui, d'ailleurs c'est sa charisme des politiciens, pour vouloir se jouer de nous. Un peu considérer ce peuple comme des préservatifs. Lorsqu'on l'a utilisé, on a usé de lui, on jette dans la poubelle, et puis c'est fini comme ça. Le lendemain, quand on aura encore besoin, et on se cherche encore un autre préservatif, ainsi de suite, et voilà, on est devenu un peuple avec lequel on abuse, avec lequel on fait tout ce qu'on veut, parce que parfois, aussi, la responsabilité chez nous, nous ne l'exerçons pas. Parce que c'est nous qui sommes le patron. Nous sommes le patron de ces députés. Nous avons été scandalisés. Dernièrement, les députés nous disent que le contrôle parlementaire, c'est devenu l'exception aujourd'hui au niveau du Parlement. Et nous nous disons maintenant, pourquoi vous avez été élu? Pourquoi vous avez été élu député? Parce que certainement, ils obéissent à une personnalité. Il y a la Constitution consacrée à la séparation du pouvoir, mais en réalité, ce n'est que la théorie. Hein. Nous ne sommes que dans la théorie, dans la pratique. C'est qu'il y a un chef qui dicte ses lois, qui vous dit, écoutez, je ne vais plus de tel président, je vais de l'autre. Et vous venez, on dit, nous allons passer d'abord au publiciste, au lieu de commencer par l'institution, de laisser vos candidatures à l'institution. Bon, voilà, il y a une autre plateforme politique à travers laquelle vous allez déposer vos candidatures. Et comme de chez des moutons des panurges, les députés y passent. Et puis on vous dit, voilà, c'est celui-ci qui sera votre président. Et bon, pour mater les gens, voilà, avec deux bandes, il faut organiser une élection et puis on donne des billets de banque, des antivaleurs qui gangrènent nos institutions parce qu'il n'y a pas de sanctions du peuple font qu'aujourd'hui notre société est en train d'en pâtir. Notre communauté, d'ailleurs notre pays, est en train de régresser et si aujourd'hui nous ne prenons pas caution, on s'attaque au peuple, demain nous allons tous nous voir à genoux parce que il y aura des rois, il y aura des presses qui seront certainement en train de renforcer leur pouvoir et de se servir de notre inconscience collective. C'est le temps au peuple congolais de se réveiller. Je l'ai toujours dit, le réveil c'est maintenant. Le réveil n'est pas demain. Si nous ne nous réveillons pas aujourd'hui, que nous soyons conscients certainement de responsabilités qui sont nôtres comme peuple congolais, que nous soyons exigeants et demandés la rédévabilité de ces autorités, nous n'aurons absolument rien. Et nous reviendrons tout autour de séances comme ça. On vient, on parle. D'ailleurs, les concernés ne sont pas là-bas. Et puis, le lendemain, ainsi de suite. Si nous ne voulons pas nous révolter aujourd'hui contre ces antivaleurs, demain, nous allons certainement souffrir. Donc, aujourd'hui, nous avons la responsabilité comme peuple de pouvoir prendre conscience et de nous dire « c'est assez ». Que ceux qui sont à la majorité, que ceux qui sont même à l'opposition, comprennent certainement que le peuple, on ne blague pas avec le peuple. Le peuple constitue une grande arme avec laquelle on ne blague pas. Mais chez nous, apparemment, la politique est devenue au-dessus du peuple, ce qui fait que Bon, voilà, on se joue de nous et ça passe. Et ils viendront encore demander de voir. Et les autres vont vous dire, voilà, la Constitution nous empêche de bien travailler, alors qu'elle est certainement claire. Et donc, tout le monde devait se jouer du peuple comme il veut. Ce rapport doit révolter le peuple. Et par cette révolte, le peuple saura être exigeant. Et par cette exigence, les dirigeants seront redevables.
S'appuyant sur les conclusions du rapport, les participants ont échangé sur les causes profondes de ces inégalités, notamment l'absence d'une politique salariale harmonisée, la mauvaise gouvernance et le manque de transparence dans la gestion des finances publiques. Au terme de leurs échanges, plusieurs recommandations ont été formulées à l'endroit du gouvernement. Parmi celles-ci, la réduction du train de vie des institutions publiques, souvent jugées excessives au regard des réalités socio-économiques du pays. Ces jeunes plaident également pour une réforme en profondeur du système salarial dans la fonction publique afin de garantir plus d'équité entre les agents de l'État. Ils insistent sur la nécessité de prioriser les investissements dans les secteurs porteurs capables de générer de l'emploi et d'améliorer les conditions de vie de la population. Gueki Birandole, chef de la division provinciale de la jeunesse.
En tout cas, je viens de participer à cette séance de restitution de l'analyse faite par des ONG nationales sur la disparité entre les agents publics et les inégalités de traitement et autres. Je trouve que c'est un sujet d'actualité au regard de la politique même, de la vision même du chef de l'État qui met l'homme au centre. Quand vous suivez les concepts, le peuple d'abord, ça veut dire que toute la politique du chef de l'État et du gouvernement congolais doivent tenir compte des pertinentes observations et recommandations données par cette ONG parce que ça touche le quotidien des agents publics de l'État, globalement les fonctionnaires. Et ces disparités peuvent créer des tensions sociales et des frustrations qui peuvent amener à la démobilisation des agents publics de l'État parce qu'ils estiment n'étant pas bien traités ou maltraités contre d'autres qui sont beaucoup plus avantagés. Ça vient également rappeler un principe fondamental de notre propre constitution qui voudrait à ce que tous les citoyens congolais profitent des ressources de l'État. Les ressources de l'État, on ne parle pas que des minéraux. Il y a aussi les recettes qui sont mobilisées ça et là, qui doivent rentrer dans les trésors publics, que les paniers, comme le dit les finances publiques, et que les institutions du pays, les autorités, les dirigeants doivent répartir de nouveau ces ressources pour que chaque citoyen trouve sa part. Je ne parlerai pas ici d'une hypothèse où on vendrait le pays pour que peut-être on puisse répartir les frais donnés à chaque Congolais de manière égale. Mais ici, on parle de mobilisation des ressources qui doivent être redistribuées à la population de manière à ce qu'il n'y ait pas des gens qui sont beaucoup plus privilégiés, avantagés, et d'autres qui sont de moins en moins pris en charge. Et c'est là que ça crée des frustrations. Et dans les contextes comme celui-ci, les chefs de l'État et les gouverneurs des institutions doivent rapprocher cette ONG parce que ça vient aider à juguler une situation qui peut avoir de l'incidence sur le plan sécuritaire. Eh bien, les gens frustrés sont capables de beaucoup de choses. Ils peuvent s'allier avec n'importe qui parce qu'ils sont frustrés. Et vous en connaissez pour ce qui concerne les partis politiques. Il y en a par exemple les gens qui coalisent avec les diables seulement parce qu'ils sont frustrés. Et moi, j'estime que des injustices dans le traitement des fonctionnaires de l'État peuvent créer en un certain moment des frustrations qui peuvent les pousser à se rentrer dedans les uns contre les autres. On ne peut pas donner au mandat, par exemple à un mandataire public 40 000 $ et à un chef de bureau 180 $. On ne peut pas donner à un député 45 000 $, 30 000 $ et que à un directeur d'une entreprise on donne par exemple 500 $. Non, ça ne va pas. Qu'est-ce que vous voulez? Puisque tous vont dans le même marché et ils accèdent aux biens et services avec le même traitement. Alors, pourquoi donner autant de moyens? C'est comme ça que vous avez des Congolais qui peuvent se taper le luxe de faire l'étranger en avion 3 fois, 4 fois l'an, alors qu'il y a un Congolais qui mourra sans être même à Kinshasa. Ça, c'est quand même quelque chose qui doit interpeller les uns et les autres. Et j'ai recommandé aux organisateurs de penser à approcher, parler avec les différents syndicats pour que ce message parvienne aux concernés et que des réflexions pertinentes, y compris des recommandations concrètes pour que les institutions du pays puissent traiter les populations de manière égale. Et bien évidemment, ici, ceux-là qui doivent s'indigner, ce sont les victimes directes. D'où il faut une prise de conscience de ces gens-là qui vont finalement pousser à des réformes par des moyens non violents, pousser quand même à des réformes. Je salue le fait que, par exemple, les chefs de l'État et les chefs du gouvernement sont en train de promouvoir des réformes. Il faut penser, par exemple, à une réforme qui vient réhabiliter les fonctionnaires de l'État et éviter des écarts énormes par des mécanismes de tricherie, allant jusqu'à donner des avantages supérieurs au salaire de base. Cette pratique, par exemple, quelqu'un qui a son salaire de base, dont le salaire de base est par exemple de 500 000 francs congolais, mais on lui donne des avantages au-delà de 3 millions de francs congolais. Ça augure quoi? Alors que la loi est claire, on ne peut pas avoir un avantage au-delà de 2/3 de son traitement de base. Voilà pourquoi une pratique comme celle-là exige justement qu'il y ait des réformes et se remettre en cause.
Pour les organisateurs, cette activité vise avant tout éveiller la conscience citoyenne des jeunes et à les encourager à s'impliquer activement dans les débats sur la gouvernance du pays. Un engagement qui, selon eux, est indispensable pour construire une société plus juste où les efforts de chacun sont reconnus à leur juste valeur. Voilà tout, grâce à Mzati.
Merci beaucoup Marc et Marofimbo pour ces éclairages sur cette initiative qui témoigne de l'engagement des jeunes de Beni en faveur d'une gouvernance plus équitable et d'une plus grande justice sociale. Chers auditeurs de Radio Okapi, merci de votre fidélité. Vous êtes toujours à l'écoute de 100% Jeunes. Dans cette seconde partie de votre magazine, nous nous intéressons à une autre préoccupation majeure de la jeunesse congolaise, l'emploi et l'entrepreneuriat. Pour y apporter des réponses, le président de la République, Félix Tshisekedi, a lancé le 30 juin dernier le programme présidentiel des Bouts Jeunes Congolais. Cette initiative vise à renforcer la formation professionnelle, faciliter l'accès des jeunes à l'emploi et accompagner les porteurs des projets entrepreneuriaux. Je vous propose d'écouter un extrait de son intervention.
Pendant trop longtemps, on a parlé de la jeunesse comme d'un risque, d'une charge ou d'un problème à gérer. Je veux, devant la nation, renverser définitivement cette lecture. La jeunesse congolaise n'est pas une menace pour la République. Elle est la condition de son relèvement. Mais reconnaissons-le avec lucidité, une jeunesse sans formation, sans emploi, sans accompagnement et sans perspective devient vulnérable au découragement, à l'exode, aux manipulations, à l'économie de survie et dans les zones les plus fragiles, aux logiques de la violence. Le chômage massif des jeunes n'est donc pas seulement une question économique. C'est un défi social, politique, sécuritaire et national. C'est un enjeu de cohésion. C'est un enjeu de dignité. Debout, jeune Congolais n'est pas un slogan de plus. C'est un instrument d'action publique, un cadre de coordination et une discipline d'exécution au service d'une ambition nationale, faire de la jeunesse congolaise le moteur de la transformation économique, sociale et institutionnelle de notre pays. Ce programme repose sur la conviction que l'État ne peut pas, à lui seul, employer tous les jeunes congolais. Mais il a le devoir de créer les conditions pour que chaque jeune puisse se former, accéder aux opportunités, entreprendre, travailler dignement et contribuer à la prospérité nationale. Pour y parvenir, le programme s'articule autour de trois grands axes. Le premier axe est celui de la formation professionnelle. Nous devons réconcilier l'école avec le métier, la formation avec l'économie, le diplôme avec la compétence. Notre pays ne pourra pas se développer durablement si nous continuons à former des jeunes pour des emplois qui n'existent pas, alors que nos entreprises recherchent des compétences qu'elles ne trouvent pas. Nous allons donc renforcer les écoles des métiers, développer les centres de formation professionnelle, promouvoir l'apprentissage, l'alternance, les stages de découverte et les filières techniques afin de préparer nos jeunes aux besoins réels de l'agriculture, de l'agro-transformation, des mines, de l'énergie, du numérique, de l'industrie, des infrastructures, de l'économie verte, de l'économie créative et des chaînes de valeur locales. Le deuxième axe est celui de l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat doit devenir, pour la jeunesse congolaise, une voie normale, accessible et valorisée. Non une aventure réservée à quelques privilégiés, encore moins une simple stratégie de survie dans l'informel, mais une véritable voie de dignité, de création de richesses et d'indépendance. Beaucoup de jeunes Congolais ont des idées, du courage et du talent. Mais une idée, aussi prometteuse soit-elle, ne devient une entreprise viable que si elle est accompagnée, financée, formalisée et insérée dans un marché réel. C'est pourquoi le programme prévoit notamment l'opérationnalisation du concours national des plans d'affaires simplifiés, le CONAPAS, qui est destiné à identifier, sélectionner, financer et accompagner sur toute l'étendue du territoire national des projets porteurs de valeur, d'emploi et de transformation locale. Organisé de manière cyclique, le CONAPAS permettra de faire de nos circonscriptions électorales de véritables circonscriptions entrepreneuriales, le ministre l'a dit ici, en orientant les initiatives des jeunes vers les bassins de production, les unités industrielles structurantes et les chaînes de valeur locales. L'enjeu est clair, faire émerger dans chaque province une nouvelle génération d'entrepreneurs capables de créer, de produire, d'embaucher et de réussir dans leur propre territoire sans être contraints de les quitter pour espérer bâtir leur avenir ailleurs. Le troisième axe est celui de l'accès à l'emploi et à l'égalité des chances. Trop de jeunes se heurtent encore à des barrières invisibles. Nous devons briser ce cercle vicieux. Un jeune ne peut pas acquérir de l'expérience si personne ne lui donne une première chance. Une jeune femme ne peut pas déployer pleinement son potentiel si les instruments de financement et les marchés lui restent fermés. Un jeune vivant avec handicap ne peut pas contribuer pleinement à la nation si nos dispositifs ne sont pas accessibles. Un jeune dans le milieu rural ne peut pas s'enraciner dans son territoire si aucune opportunité n'y est organisée. C'est pourquoi ce programme sera profondément inclusif. Il doit atteindre les jeunes femmes, les jeunes vivant avec handicap, les personnes atteintes d'albinisme, les peuples autochtones pygmées, les jeunes des milieux ruraux, les jeunes déplacés, les jeunes sortant de situations de vulnérabilité, ainsi que les jeunes des zones affectées par les conflits. Aucune jeunesse de la République ne doit être laissée au bord du chemin. La réussite de Debout Jeunes Congolais dépendra désormais de notre capacité collective à l'exécuter. Les moyens prévus traduisent l'ampleur de notre ambition. Le coût global du programme est évalué à 1,3 milliard de dollars américains sur 6 ans, avec une projection de 1 million d'emplois à créer d'ici 2032. Pour en assurer le démarrage effectif, dès cette année, une première ligne de 50 millions de dollars américains a été inscrite au collectif budgétaire 2026. Et nous espérons et attendons une mobilisation plus accrue des partenaires techniques et financiers pour que cette tranche soit étoffée cette année 2026. Ces chiffres ne sont pas de simples données budgétaires. Ils engagent l'État, le gouvernement et l'ensemble des institutions appelées à intervenir dans la mise en œuvre du programme. Ils nous obligent à la rigueur, à la transparence et aux résultats. C'est pourquoi j'instruis le gouvernement de veiller à sa mise en œuvre rigoureuse, coordonnée et transparente. La primature devra assurer sa coordination interinstitutionnelle, la coordination interinstitutionnelle nécessaire afin que les ministères concernés agissent en cohérence avec des plans d'action précis, des échéances claires, des responsabilités identifiées, des budgets sécurisés, des indicateurs véritables et des résultats attendus. Les provinces devront être pleinement associées car l'emploi des jeunes ne peut être pensé depuis Kinshasa seulement. Chaque province devra identifier ses filières porteuses, ses bassins d'emploi, ses besoins en formation, ses chaînes de valeur et ses opportunités propres.
C'était le président de la République, Félix Tshisekedi, présentant les grandes orientations du programme présidentiel Debout Jeune Congolais, consacré à l'emploi et à l'entrepreneuriat des jeunes. Dans nos prochains numéros, nous reviendrons plus largement sur cette initiative en donnant notamment la parole aux premiers concernés, les jeunes. Ils partageront leurs attentes, leurs réactions et leur analyse de ces programmes, ainsi que les retombées qu'ils espèrent pour l'emploi, l'entrepreneuriat et leur avenir. C'est ainsi que s'achève ce numéro des 100% jeunes. Merci de l'avoir suivi. Merci également à Marc Marofimbo pour sa contribution à la production. La mise en onde était assurée par Pierre Diassinois. Présentation et coordination, Grâce Amzati. Supervision, Jean-Marc Matoaki. A très bientôt pour un nouveau numéro des 100% jeunes, le magazine des jeunes sur la fréquence de la paix. Au revoir.